Nous avons comparé tout le livre d'Ésaïe à une petite Bible, dans le sens où il y a 66 chapitres, comme il y a 66 livres dans la Bible. Il y en a 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Les 39 premiers chapitres d'Ésaïe parlent du jugement divin, des prophéties de jugement, et le reste, les 27 autres chapitres, parlent de la bénédiction du Seigneur, du salut, des temps messianiques, des temps de la fin. Donc il y a un parallèle très intéressant, même si on sait que les chapitres n'ont pas été inspirés par l'Esprit-Saint, mais ont été mis en place beaucoup plus tard pour des raisons de lecture et de commodité. Le parallèle n'en subsiste pas moins et on est pour l'instant donc dans cette première partie qui prononce, où Dieu prononce par le prophète Ésaïe des jugements. Et dans ces jugements, Dieu ne peut pas s'empêcher de nous donner des petites pépites d'espoir. Comme un parent qui punit ses enfants pour leur bien, Dieu châtie ses enfants pour leur bien. Il parle ici de son peuple, d'Israël. Son peuple, on sait qu'il, dans le Nouveau Testament, il l'étend aux païens par l'Église. Il ne le substitue pas. Les Israélites, le peuple d'Israël, a un avenir avec le Seigneur. Et ça, c'est très clair dans la Bible. Ceux qui voudraient prétendre le contraire ne respectent pas la vérité biblique. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 5 d'Ésaïe, page 672 dans la Bible à la Colombe. Et on va voir que le prophète, on ne sait pas s'il chantait, c'est le début de ces 7 versets, mais c'est un chant, le chant de Dieu pour sa vigne. La vigne, on le verra au verset 7, c'est son peuple. Jésus a repris cette image et sans doute en écho à cette prophétie, à ce chant de la vigne, dans Matthieu 21, il parle aussi du peuple de Dieu et de l'Église. Et donc la vigne, lorsqu'il est question de la vigne dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, c'est tout le peuple de Dieu, Israël comme l'Église. Il y a aussi dans l'Apocalypse des fruits qui ne sont pas de bons fruits qui sont évoqués par la vigne. Mais là, lisons ensemble les 7 premiers versets. Je lis dans la version à la Colombe. Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des fruits infects. Or donc maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Or la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et des hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture. Et voici la forfaiture, la justice, et voici le cri du vice. La vigne de l'Éternel. le chant du bien-aimé sur sa vigne. C'est le chant, bien sûr, vous l'avez compris, de Dieu pour son peuple d'Israël. L'explication est donnée, la vigne de l'Éternel des armées, c'est le Dieu Tout-Puissant qui peut, en un clin d'œil, mobiliser des myriades, des dizaines de milliers d'anges puissants qui a une puissance incalculable, une puissance qui s'est manifestée de la façon la plus saisissante à la résurrection. Et ce Dieu, cet Éternel des armées, il nous est expliqué comment il avait tout fait pour son peuple. Il avait préparé le terrain, comme on dit, préparer le terrain, c'est vraiment le cas de le dire. Il avait d'abord trouvé un coteau fertile, une colline bien ensoleillée, avec une bonne terre. Il avait labouré, il avait ôté les pierres. Si vous êtes jamais allé en Israël, ou quand vous irez en Israël, vous verrez qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pierres en Israël. Il y a des régions où on dirait que les pierres poussent toutes seules. Il y a même une histoire dans une légende talmudique qui dit qu'en fait Dieu avait amené deux sacs de pierres pour mettre sur la surface de la terre et que par accident il y en a un qui s'est ouvert au-dessus d'Israël. Et c'est vrai des fois dans notre région, quand vous voyez un champ, souvent vous voyez un monceau de pierres qui est sur le côté parce que pour pouvoir cultiver, pour pouvoir passer et labourer, il faut enlever ces pierres une à une. C'est ce que Dieu avait fait. Il avait, pour ainsi dire, dégagé le terrain de tout ce qui empêchait la vigne de bien pousser. Il y avait planté un cépage délicieux. On n'est pas loin des vins de Bélée, des coteaux de Bélée, où il y a, paraît-il, un vin d'une grande qualité qui produit une petite récolte. Dieu avait choisi le meilleur des cépages. Il avait vraiment tout fait pour eux. Il avait même bâti une tour au milieu d'elle. C'était une tour de garde pour vérifier qu'il n'y avait pas des brigands qui venaient arracher les plants pour les replanter ailleurs, qui regardaient aussi, vérifier qu'il n'y avait pas de bêtes sauvages. Il suffit de monter à pied, on peut monter sur des collines ici et voir parmi les plantes des traces de sangliers qui viennent fouiller les racines et qui arrachent les plants. Dieu avait mis une tour. Il avait creusé aussi une cuve. Une cuve parce qu'il avait l'espoir, il avait l'assurance que cette vigne allait donner du bon fruit et qu'avec ce fruit, on pourrait faire du bon vin. Et donc, il est dit, il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects, des fruits pourris, des vignes, des fruits sauvages. Vous avez peut-être déjà pu goûter, il y a des fois des vignes qui sont plantées comme une plante de décoration pour donner un peu d'ombre. Et vers le mois de juin ou plutôt septembre, vous voyez des petits raisins et vous dites « Oh, du raisin, chouette !» Et vous prenez une grappe et vous en goûtez un et vous recrachez ça. C'est pas du raisin qui va, c'est pas du raisin de table, c'est même pas du raisin qui peut donner du vin. C'est un fruit infect. Et Dieu, encore une fois, utilise la méthode qui consiste à dire on va appeler quelqu'un à juger la situation. Il appelle les habitants de Jérusalem, les hommes de Juda. Vous vous souvenez, il y avait la division du royaume du nord et du royaume du sud suite au règne de Salomon. Et il leur dit, c'est vous qui allez être les juges entre moi et ma vigne. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ma vigne? Est-ce que j'aurais dû faire quelque chose que j'ai oublié de faire ou que j'ai volontairement refusé de faire? Franchement. Pourquoi est-ce que, alors que j'avais tout fait pour qu'elle produise de bons fruits, a-t-elle donné des fruits infects? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? C'est une espèce de question de jugement ou de procès un peu rhétorique, parce que il n'attend pas la réponse, il dit, il est à la fois, on l'a dit, juge et procureur, et c'est pas bon quand on est accusé d'avoir quelqu'un en face de nous qui est le procureur qui nous accuse et celui qui va nous donner le jugement. Mais telle est la capacité de Dieu. C'est lui qui va nous condamner si nous ne sommes pas en Christ et qui va nous juger. Alors il dit, je vais vous dire ce que je vais faire à cette vigne. Je vais arracher la haie qui l'a protégée. Comme ça, les animaux vont pouvoir venir et la brouter, la manger comme des plantes vertes, comme de l'herbe. Je vais déchirer la clôture, si bien que les gens vont, ou les animaux vont pouvoir passer et les fouler aux pieds. Elle va être réduite en ruine. Et la chose la plus terrible qu'on puisse faire en fait à un jardin, c'est de le laisser à l'abandon. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience d'avoir un petit jardin et pour une raison ou pour une autre de ne pas pouvoir vous en occuper ou de négliger de vous en occuper pour d'autres raisons. Et vous allez voir qu'en fait, les choses poussent très vite. On a, même devant l'église, on a du lierre qui pousse. Et je sais que pour certains, on va peut-être laisser le lierre pousser parce que c'est joli, ça fait vieille église, du lierre, mais ça abîme la peinture, ça abîme le mur. Il semble qu'il y a quelques mois ou un an ou peut-être 2 ans maintenant, on avait coupé le lierre pour pas que le mur soit dégradé. Et aujourd'hui, si vous regardez bien, vous allez voir le lierre est présent de nouveau. Si vous faites rien, ça pousse. Ça pousse de façon désordonnée. Encore une fois, je rassure ceux qui aiment le lierre, peut-être qu'on va le laisser cette fois-ci, peut-être le faire pousser pour que ce soit joli. Je me souviens la première fois où je me suis rendu en Corse. J'ai des ancêtres corses, comme l'indique mon nom, Petrignani. Mon nom, c'est pas Pierre, c'est en fait Pedro Paolo. Pierre-Paul, Pedro Paolo, Petrignani. Je suis rentré en Corse il y a quelques... Oh, ça remonte à plusieurs années. Et là, j'avais encore un vieil oncle, un grand-oncle, qui m'a emmené voir le jardin en contrebas du petit village. Et il était très triste, parce que avec les guerres de 14-18, 39-40, tous les hommes de la famille avaient été décimés. Il était pratiquement le survivant unique. Il était bien âgé, il n'était plus en mesure de prendre soin du jardin qui nourrissait la famille, près du petit ruisseau qui passait là. Et c'est vrai que c'était difficile de voir un jardin là où il m'a emmené. Il y avait des ronces partout, il y avait des murs, il y avait des roseaux. Tout était repris. Et c'est ce que Dieu dit, je vais laisser la vigne, je vais plus m'en occuper. Plus la tailler, la cultiver. Les ronces et les épines y croîtront. Et c'est une garantie. Plus de 2000 ans plus tard, 2700 ans plus tard, cette prophétie, vous pouvez la vérifier dans votre jardin. Si vous occupez pas de vos plantes, ça va pousser en désordre, ça va être la jungle. Il dit, je donnerai même des ordres à Météo France pour qu'il y ait plus de pluie, de Météo Israël, pour qu'il y ait plus de pluie qui tombe dessus. Et Météo Israël et Météo Monde obéit à Dieu. Peut-être que cette année, on aura encore une sécheresse pour faire suite aux catastrophes naturelles que l'on voit autour de nous. Préparez-vous. Achetez des bouteilles d'eau minérale. Non, pas de panique. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Ce sont les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Et puis, une chose qui me conforte. Dieu aime les jeux de mots. J'aime bien les jeux de mots. Souvent, ça fait partie, les carambours, cambours en cale, les jeux de mots en France, c'est une chose qui est étrangère à certaines cultures. Les Anglais, les Américains, mes gosses s'en foutent lorsque je fais des jeux de mots. Ils trouvent que c'est bête comme tout. Mais Dieu lui-même fait des jeux de mots. Que le traducteur ici a essayé de rendre. Il espérait la droiture, il requiert la forfaiture. Il espère la justice, il voit le cri du vice. C'est beaucoup plus fort en anglais. En hébreu, il espérait le mishpat, il retient le mispo. Il espérait la tzedaka, la justice, il a recueilli le tzedaka, le vice. Par ces jeux de mots, faits par Esaïe sous la dictée du Saint-Esprit, Dieu veut exprimer sa surprise de ce qu'il reçoit alors qu'il avait attendu toute autre chose. Il avait attendu de bonnes choses, il récolte des mauvaises choses. Dieu est en colère. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous, nous qui vivons maintenant, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour que nous portions du bon fruit? Dieu veut nous interpeller. Personnellement, considérez votre vie. Alors vous allez me dire, oui, j'ai eu des crises, j'ai eu des malheurs dans ma vie, je n'en doute pas. Mais vous êtes vivant aujourd'hui, en bonne santé. Vous respirez, sans masque encore. Notre prière, vraiment, pour revenir à ce virus, c'est que les gens prennent conscience que la prochaine bouffée d'air qu'on inhale, c'est un cadeau de Dieu. On ne sait pas si dans cette bouffée d'air, il ne va pas y avoir une petite bête qui va s'installer dans votre corps et le détruire de l'intérieur. Et les gens se moquent de Dieu comme de l'an 40. Ils n'ont aucun égard, aucune reconnaissance pour Dieu qui nous a donné ce système immunitaire qui nous permet de vivre, qui nous a permis de nous reposer, de régénérer nos forces par le sommeil, qui nous a permis d'avoir des amis, des membres de famille, même si on sait que les familles, c'est jamais parfait, on sait qu'on perd nos parents. Dieu est si bon pour nous. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que j'en suis conscient? Est-ce que mon cœur est rempli de reconnaissance pour tous les bienfaits qu'il me donne? Ou est-ce que je veux toujours plus? Ou est-ce que je rouspète parce que je n'ai pas ce que l'autre a et que je jalouse parce que je me dis, tiens, cette nouvelle voiture, ce nouvel ordinateur, pourquoi je ne l'ai pas, etc. Encore une fois, je sais que pour certains, la vie est compliquée en ce moment, la vie est difficile. Il y a peut-être un désespoir qui s'est installé. On se dit qu'on n'a pas d'amis, on se dit qu'on n'y arrive pas. Certains souhaitent avoir un époux, une épouse, et ça fait des années que ça dure, et il n'y a personne. Mais franchement, est-ce que Dieu n'est pas bon pour toi, pour moi? Et si Dieu est si bon, c'est parce qu'il m'aime, mais c'est aussi parce qu'il veut que je parle de cet amour autour de moi. Et qu'est-ce que je fais pour le faire? Est-ce que je, au lieu de dire autour de moi que Dieu est bon, je dis je me plains de mes circonstances? Est-ce que je donne l'impression que la vie avec Dieu n'est pas facile, que Dieu est un maître exigeant, qu'il ne nous bénit pas? Dieu espère, surtout de son peuple, que nous comportions avec droiture, pas de mensonge. Mensonge en parole ou en silence. Vous avez remarqué qu'on peut mentir sans rien dire. Quelqu'un vous dit, pensez une chose sur vous et vous dites rien pour le corriger ou pour la corriger. Pierre, tu es vraiment spirituel. Yes. J'ai menti. Ou bien, est-ce que je suis un instrument de justice autour de moi ? Est-ce que je participe à des choses qui font qu'il y a plus de justice sur Terre ? Est-ce que je donne de mes ressources ? Est-ce que je donne de mon temps pour aider les autres ? Ou est-ce que je cherche toujours à recevoir, à avoir plus pour moi, pour les miens peut-être, si on n'est pas trop égoïste, mais souvent on peut être égoïste pour les siens. Que ce soit sa famille, son clan, sa ville, aller loger CN. Pour son pays, pour sa race, pour ses groupes d'intérêt. Dieu a tout fait pour nous. Est-ce que nous sommes reconnaissants et est-ce qu'à partir de cette reconnaissance et de tous ces bienfaits, est-ce que nous les partageons autour de nous ? Ésaïe va prononcer 6 incantations, ce qu'on appelle des malheurs, des malédictions, qu'on va lire ensemble. Encore une fois, ce sont des malédictions prononcées par Dieu par l'intermédiaire de son prophète. Encore une fois, le texte d'Ésaïe n'est pas nécessairement toujours dans l'ordre chronologique. On verra au chapitre 6 qu'il parle de l'année de la mort du roi Ozias, qui est aux alentours de 740 avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en fait, ces malédictions ont été prononcées avant que le royaume du nord d'Israël soit déporté par les Assyriens en 721, et surtout, c'est bien avant, en 580, que ne soit déporté le peuple de Jérusalem, Juda et Benjamin, à Babylone en 586, pour la date à retenir. Il y a plusieurs dates, mais c'est la grande date, c'est 586 avant Jésus-Christ. Donc tout ça, ce sont des prophéties. Des fois, quand on lit l'Ancien Testament, on mélange, il révèle des choses. Et verset 8, « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Il n'y a de demeure que pour vous seuls au milieu du pays. » Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées, ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bat, à peu près 22 litres de contenu, et un homère de semences, et un dixième de cette quantité, ne produira qu'un épha. C'est aussi le même, 10 fois plus, 22 litres. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison. De quoi s'agit-il ici ? Il parle des gens matérialistes, des gens qui cèdent à l'envie d'avoir toujours plus, à la convoitise. Il parle des gens riches qui collectionnent les maisons, qui collectionnent les terrains, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace pour les plus pauvres. Le prix du terrain est très élevé dans notre région. Il est très difficile de se loger. Et on sait qu'il y a des appartements, il y a des villas qui sont vides toute l'année. Il y a du terrain parce qu'il y a des gens riches qui monopolisent cet espace. Dieu leur promet que ces maisons nombreuses vont être dévastées. qu'il n'y aura plus personne dans ces belles maisons. L'arpent, c'était une mesure qui était le terrain qu'on pouvait labourer en une journée. Une personne pouvait, avec une charrue et des bœufs, labourer un arpent. Et dans ce temps où la colère de Dieu se révélera, les ratios de production tomberont. Au lieu des quantités qu'on peut espérer, on récoltera presque plus rien. Alors vous dites, c'est pas mon cas, j'ai pas des villas qui se touchent, j'ai qu'un appartement ou j'ai qu'une maison. Mais est-ce que par ce même esprit de convoitise, est-ce que je retiens des biens que je pourrais partager avec d'autres? Est-ce que je profite des occasions de faire du bien autour de moi? On a une association, le service d'entraide liaison, le SEL, qui essaye d'aider certaines populations dans le monde en commercialisant l'artisanat fait en Afrique ou en Asie par des gens qui n'ont pas de ressources. Il y a des microcrédits, il y a des tas de choses qui peuvent être faites, même ici à Nice, pour aider des gens de par le monde. Est-ce que je m'en suis jamais soucié? Ou est-ce que je me dis, j'ai déjà bien assez à faire ici? N'allons pas... C'est vrai qu'on peut aussi aider ici, il y a des œuvres caritatives, il y a des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez partager vos biens, vos anciens ordinateurs et toutes ces choses, et je sais que beaucoup ont ce cœur d'aider les autres, mais Dieu promet de punir ceux qui se laissent aller à la convoitise. Un autre malheur, une autre malédiction, verset 11. Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin. Pourtant, c'est bien de se lever le matin. Non, mais pour rechercher des liqueurs fortes. À ceux qui traînent dans la nuit échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils n'aperçoivent pas l'action de l'Éternel. Ils ne voient pas l'œuvre de ses mains. Malheur à ceux qui s'adonnent au plaisir, et notamment l'alcoolisme, l'hédonisme, la bonne chair, la bonne musique, l'alcool, la vie est une partie de plaisir. Pourquoi est-ce que c'est mal? Parce que ça détourne leur attention de ce que Dieu est en train de faire. Ils n'aperçoivent pas l'action de l'Éternel, ils ne peuvent pas se joindre à son travail. Et puis, des versets 13 à 17, il donne les conséquences de ces péchés. C'est pourquoi mon peuple sera déporté. Encore une fois, c'est une prophétie qui s'est réalisée. Faute de connaissance, sa noblesse mourra de faim. Sa population sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts élargit son gosier, ouvre sa gueule outre mesure. Alors descendent l'élite et la populace de la ville, son tumulte et celui qui s'y amuse. L'être humain est courbé, l'homme est abaissé, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées est élevé par le droit, et le Dieu saint est sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Dieu promet à ceux qui vivent pour leur plaisir, pour eux-mêmes, qu'il n'y aura pas de différence, le peuple va être déporté, les riches comme les pauvres. Le séjour des morts va élargir son gosier. De façon très imagée de dire qu'il va y avoir davantage de morts et de décès dus à une punition divine. Et tout le monde va être affecté par cela. L'être humain est courbé, l'homme est abaissé. Les regards des hautains sont abaissés. L'homme qui se fait plus grand que Dieu, qui ignore Dieu, Dieu va le rappeler à l'ordre un jour. Il l'a fait par ses déportations, par ses exils d'Israël et de Juda en son temps. Mais cette promesse, elle est toujours valable pour la fin des temps, pour la période de la grande tribulation. Des brebis viendront sur le terrain, des étrangers profiteront des possessions, les ruches seront ruinées. Verset 18, malheur, une autre malédiction, malheur, la troisième, malheur à ceux qui tirent le mal avec les cordes du vice. De façon très, très imagée de dire qu'ils s'adonnent au péché. C'est comme s'ils sont attelés avec des cordes, les cordes du vice, du mal, et ils tirent un chariot, ils tirent une péniche sur un canal qui est le mal avec toutes ses conséquences. Ils tirent sur le péché, ils sont attelés au péché. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils posent un défi à Dieu. Ils se moquent de Dieu. Dans leur incrédulité, ils disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le projet du Saint d'Israël s'approche et s'exécute afin que nous le connaissions. Nous, on s'adonne au péché, on voit rien. Qu'est-ce que vous nous racontez là? S'il est là vraiment, pourquoi on le voit pas? On n'a pas peur de lui, il viendra jamais, votre Dieu. Qu'il vienne, qu'on le voit un peu. Et ça, c'est la faute des gens qui se moquent de Dieu, qui disent « je le vois pas, donc je crois pas en lui ». J'ai deux mots à lui dire, d'ailleurs. Souvent, vous entendez ça. Si Dieu existe, pourquoi la misère? Pourquoi le H1N1 et qui tue des gens innocents? Pourquoi les tremblements de terre? Pourquoi les catastrophes? Votre Dieu, moi, il va m'entendre. Non, c'est pas lui qui va vous entendre, c'est vous qui allez l'entendre. C'est un défi insensé de s'en prendre à Dieu ainsi, de manquer du respect élémentaire envers votre Créateur et celui qui dirige toutes choses. Verset 20, quatrième malédiction. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Retenez ce verset, Ésaïe 5, 20. Ésaïe 5, 20, ça résume notre époque. On avait demandé il y a quelques années un pasteur de prier à l'ouverture de la session des représentants de la Chambre des députés du Kansas. Et d'habitude, c'est une prière un peu formelle, une vraie formalité. Dieu puissant continue de bénir notre État, bénir l'Amérique et... Aide-nous dans ta miséricorde et quelque chose comme ça. Mais cette fois-là, voilà la prière que ce pasteur Joe Wright a priée. Il a dit « Seigneur, nous venons vers toi aujourd'hui pour te demander pardon et pour te demander de nous guider. » Alors, c'était au Kansas. Ça pourrait être à l'Assemblée nationale à Paris, ça pourrait être en France. Nous savons que ta parole nous dit « Malheur à ceux qui appellent bien ce qui est mal. » Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons perdu notre stabilité spirituelle, nous avons renversé nos valeurs. Nous avons exploité le pauvre et nous avons appeler ça, on dirait en France, le tiercé ou le loto. Nous avons récompensé la paresse et nous avons appelé cela l'aide sociale. Nous avons tué nos enfants, pas encore nés, et nous avons appelé ça la liberté de choix. Nous avons tué des gens qui se livraient à l'avortement et nous avons appelé cela la justice. Nous avons négligé de discipliner nos enfants et nous avons appelé ça développer leur estime de soi. Nous avons abusé du pouvoir et nous avons appelé ça la politique. Nous avons convoité les biens de nos voisins et nous avons appelé cela avoir de l'ambition. Nous avons pollué les ondes radio et télé avec de la grossièreté, de la pornographie, et nous avons appelé ça la liberté d'expression. Nous avons ridiculisé les valeurs judéo-chrétiennes et nous avons appelé ça les lumières. Ô Dieu, sonde nos cœurs, purifie-nous et libère-nous de nos péchés. Vous pouvez vous en douter, cette prière a suscité beaucoup de réactions. Des réactions de colère, mais aussi des réactions d'approbation pour ceux qui réalisent qu'on fait exactement ce que nous dit Ésaïe 5:20. Ce qui est bien, s'abstenir de sexualité en dehors du mariage, on l'appelle le mal. C'est être coincé, c'est être rétrograde, c'est être obscurantiste. Prier, c'est être superstitieux. Par contre, l'horoscope, c'est être libéré. Et on pourrait, je vous invite à, quand vous lisez les journaux, quand vous lisez les magazines, quand vous écoutez les nouvelles, les médias, à voir que le bien est appelé mal et que le mal est appelé bien. Les gens qui vont à l'église, vous savez ce que vous êtes ? Vous êtes des bigots rétrogrades. Et donc, Dieu dit « malheur à ceux qui font ça ». Verset 21, il continue avec une cinquième malédiction, « malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents ». Encore une fois, l'orgueil de l'homme, ceux qui pensent qu'ils ont tout compris. Ceux qui pensent que l'évolution explique toute chose. Je ne sais pas si je vous ai envoyé, il y a un article dans le journal Libération qui faisait écho au travail d'André Hegen, qui vient, il y a quelques mois, de terminer la séquence du génome bovin. Il a réalisé une œuvre formidable, scientifique. C'est un grand scientifique qui est venu nous parler de l'évolution et de la création. Et c'était le journal Libération qui s'amusait du fait que l'homme qui avait accompli cet exploit, qui avait terminé ce travail de longue, longue haleine, qui allait permettre de comprendre bien des choses sur la maladie, les maladies bovines, la production, etc. C'est un créationniste. Encore une fois, ses collègues sont fous de rage. Lui qui est bigot, qui comprend rien, qui dit que c'est Dieu qui a créé le monde, c'est lui qui fait des découvertes scientifiques. Dieu déteste l'orgueil, de quelque niveau qu'il soit. C'est lui qui, il abaisse celui qui veut s'élever, il élève celui qui s'abaisse. Alors il n'est pas question de dire je vais m'abaisser pour qu'il m'élève, parce qu'il comprendra ça aussi. Donc il vous laissera là où vous êtes abaissé. Mais une malédiction contre les orgueilleux. Verset 22, sixième malédiction. Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin, aux champions de la préparation des liqueurs fortes. Ils justifient le coupable pour un présent et retirent au juste son droit à la justice. C'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume et comme le foin livré à la flamme se consume, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont rejeté la loi de l'Éternel des armées, méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas et sa main est encore étendue. Vous avez peut-être connu des gens qui se vantent de pouvoir, de bien tenir l'alcool. Il y a des concours, on va voir combien de verres on peut avaler sans être ivre mort. Malheur à cela. Malheur aux responsables, aux juges, aux leaders qui ne respectent pas le droit, qui sont susceptibles aux passe-droits. On appelle ça en français des pots de vin, en anglais des bribes. Et là, on voit que c'est biblique. Ils veulent boire du vin, donc ils justifient le coupable pour un présent. Et ils retirent au juste son droit à la justice, l'injustice dans nos tribunaux. Et Dieu va étendre sa main, sa colère va tomber sur ces choses-là. Mais verset 26, l'espoir toujours. Il élève une bannière pour les peuples lointains, il en siffle une des extrémités de la terre, voici qu'il arrive avec promptitude et légèreté. Chez lui, nul n'est fatigué, nul ne trébuche, il ne sommeille ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses sandales rompues. Ses flèches sont aiguisées, tous ses arcs bandés. Les sabots de ses chevaux font penser à de la pierre et les roues de ses chars à un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux, il gronde, il saisit sa proie, il l'emporte et personne ne vient la délivrer. En ce jour, il y aura sur lui un grondement comme le grondement de la terre, de la mer. On regardera le pays. Voici, les ténèbres angoissent et la lumière est enténébrée par des orages. Le jugement va arriver. Il est arrivé à l'époque par les Assyriens, par les Babyloniens. Il va venir à la fin des temps. Mais on va voir qu'il y a l'espoir de salut. Ce sera le chapitre 6 avec la célèbre vocation, l'appel d'Ésaïe.